À l'approche des élections municipales, des militantes et militants du collectif Arrajois pour le climat ont présenté lors d'une conférence de presse à la Maison des sociétés d'Arras 12 mesures préconisées pour lutter efficacement contre le basculement climatique à l'échelle locale, ainsi que le pacte pour la transition, cadre dans lequel s'inscrit leur démarche. On écoute pour commencer Hervé Dieval qui présente le collectif et Jean Pasqualini qui évoque la démarche de ce collectif pour constituer ces mesures municipales et intercommunales.
Le collectif s'est créé en novembre 2018 dans la dynamique des marches pour le climat qui avait lieu à l'automne de cette année-là et la création de nombreux collectifs un peu partout en France, en Europe et dans le monde. Ce collectif aujourd'hui réunit des citoyens, des associations, des syndicats et des partis politiques autour d'une idée de départ qui était de faire pression sur les élus et les décideurs économiques pour que l'urgence écologique soit de plus en plus prise en compte. Le territoire sur lequel on avait défini un peu notre intervention étant le territoire de la CEA. Aujourd'hui, le collectif a adopté un texte qui se décline en 5 points, qui est un peu le texte qui nous fédère pour l'ensemble des gens qui adhèrent au collectif. Premier point, c'est le basculement climatique est une réalité qui est déjà présente avec des conséquences graves. Cette réalité est rappelée par tous les rapports des scientifiques et par les rapports du GIEC. Deuxième point, les États ne modifient pas fondamentalement leur politique et ne respectent pas leurs propres engagements. Le troisième point, la question climatique est donc d'une extrême urgence. Le quatrième point, c'est l'objectif qu'il faut se fixer, c'est sortir des énergies fossiles et passer aux énergies renouvelables. Et enfin, donc, il faut changer le système et pas le climat. Ça veut dire qu'il faut agir à différents niveaux, au niveau individuel, au niveau local et au niveau national, avec un impératif de solidarité. Donc le collectif s'est structuré en 3 groupes de travail qui prennent en compte ces 3 dimensions et aidé par un groupe communication qui est un peu un groupe transversal. Donc dans toutes les actions qu'on a menées depuis 15 mois, on peut citer vraiment pêle-mêle la présence du collectif dans de nombreuses manifestations organisées localement, notamment des fêtes qui ont eu lieu à Saint-Laurent, Bourin. La formation à la fresque du climat et l'animation d'ateliers. Un travail de compréhension du plan de transition énergétique de la CEA. De nombreuses rencontres avec les élus et les responsables techniques de la CEA. Un travail sur dossier, actuellement la méthanisation. Et plus généralement l'organisation de conférences.
Donc mon intervention a pour but de préciser un peu quelle a été la démarche suivie par le collectif pour élaborer ce document. Comment on a procédé? On s'est appuyé sur le pacte pour la transition dont Xavier parlera un peu plus loin, en réunissant notamment 2 groupes de travail du collectif, le groupe de travail qui agit sur le terrain local et le groupe de travail qui agit sur une perspective plus globale. Et notre démarche, ça a été d'essayer de voir quelles étaient les mesures qu'on voulait mettre particulièrement en évidence en tant que collectif local. On a fait précéder ces mesures d'un préambule, dont vous avez le texte, qui précise justement les principes que l'on suit et quel est le sens de ces mesures. La première chose, c'est l'importance de l'échelle municipale et communautaire. On pense que c'est une échelle pertinente par l'ancrage territorial, la proximité sociale, les compétences aussi dont disposent les communes et puis l'instance intercommunale, et donc par la possibilité que les habitants soient impliqués dans les mesures. Mais il y a une condition, il y en a même 2. La première, c'est que la démocratie locale soit approfondie, permettant justement l'intervention des habitants. Et puis la deuxième chose qui est importante pour nous, c'est que le lien soit fait entre l'échelle locale et l'échelle globale. Et donc cette échelle globale, pour nous, c'est tout à fait important. Et c'est cette échelle globale qui donne son sens aussi à l'action locale. Et ce qu'on affirme, et on le porte fortement, c'est qu'actuellement, on parle de transition écologique. En fait, de transition écologique, la question qu'il faut se poser, c'est ce vers quoi on transite. Ce vers quoi on transite aujourd'hui au niveau mondial en ce qui concerne le climat, c'est une augmentation de 3 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle à la fin du siècle, à la surface du globe, en moyenne. Et ça encore, c'est à condition que les différents pays respectent les décisions de la COP21, ce qui est loin d'être le cas. Il n'y a que 3 pays qui respectent les mesures, les engagements de la COP21. Et parmi ces pays, il n'y a ni la France et il n'y a pas non plus l'Europe. Autrement dit, ce vers quoi on se transite aujourd'hui, c'est une situation de plus en plus catastrophique et chaotique. Alors pour nous, ce que l'on veut affirmer comme principe, c'est qu'il faut passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Mais que pour pouvoir faire ce passage, il est nécessaire de baisser considérablement la consommation d'énergie. Et d'une manière plus générale, il est nécessaire de baisser la production et le transport de matière. Ça veut dire donc que l'on met en place un mode de production qui réponde aux besoins et qui ne soit pas un mode de production destiné simplement pour vendre. On ne produit pas pour vendre. Et si on dit qu'il faut produire pour les besoins, ça veut dire donc que ces besoins, ils doivent être décidés. Et ils doivent être décidés comment? Pour nous, il y a 2 critères. C'est décider collectivement et démocratiquement. Et le deuxième critère, c'est que ça soit fait avec justice sociale. Pour nous, la limite tolérable d'augmentation de la température par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est 1,5 degré, sachant qu'on a déjà au moins 1 degré déjà d'augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors, les mesures qu'on a privilégiées, elles agissent à 3 niveaux. Elles bloquent, elles essayent de bloquer le dérèglement climatique, le basculement climatique. Leur deuxième aspect, c'est qu'elles amoindrissent, si c'est possible, ce dérèglement climatique. Et elles favorisent l'autonomie des populations face aux chocs qui peuvent survenir. Enfin, pour terminer, on insiste sur l'urgence. On précise bien que pour nous, c'est le dernier mandat pour lequel les gens et les instances décisionnelles, elles peuvent agir encore efficacement, et que dans 6 ans, bon, c'est ce qu'on dit un petit peu avec formule, disons, dans 6 ans, on dira des choses beaucoup plus désagréables. Voilà.
Tour à tour, les membres du collectif présents pour cette conférence de presse ont énuméré dans les détails les 12 mesures annoncées.
Il y a 12 mesures, donc il n'y a pas d'ordre, mais il faut bien les lister. Donc d'abord, on parle de politique de sobriété, donc de mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique, de raccordement aux énergies renouvelables des bâtiments et véhicules communaux et de l'éclairage public, s'engager à soutenir l'installation d'unités de production d'énergie renouvelable, mettre en place un vaste plan de subvention à la rénovation et l'isolation des habitats privés et sociaux et à la construction d'écoquartiers et d'habitats participatifs avec une véritable coopération de tous les acteurs. Donc on a listé des exemples. Par exemple, sur l'éclairage public et l'amplitude horaire. Mais si on veut voir un exemple très précis au niveau de la ville d'Arras, sur la Grand Place, a-t-on vraiment besoin d'avoir autant de lampadaires, puisque c'est déjà très, très éclairé? Donc là, au final, ça ne sert pas forcément. Et si on diminue cet éclairage public, eh ben, on va faire des économies d'énergie assez importante. Un autre exemple sur la sobriété numérique aussi. Il faut savoir qu'un email parcourt 15 000 km de câbles pour arriver à son destinataire. Donc l'ADEME détermine que sur un mail qui fait 1 méga, ça émet 15 grammes de CO2, ce qui est quand même assez important. Et donc au niveau des émissions de gaz à effet de serre, sur le numérique uniquement, donc là, les data centers contribuent pour 25% des émissions de gaz à effet de serre. sur le numérique uniquement. Donc en fait, si on supprime tous les emails avec des pièces jointes de nos boîtes mail et qui ne servent à rien, ça va faire une grosse différence.
Alors, une autre mesure, ce serait de rendre les circuits commerciaux compatibles avec la protection du climat. Alors, cette mesure peut s'articuler en deux parties. La première partie, c'est l'arrêt total de l'ouverture ou l'agrandissement des grandes surfaces commerciales. Hein, ces grandes surfaces sont synonymes, on le sait, d'immobilisation de terres agricoles, de longs transports par camion, d'utilisation de la voiture, de suremballage des produits et de disparition des commerces de proximité. La deuxième partie, le deuxième point, hein, c'est la mise en place d'un système alimentaire territorial à la communauté urbaine, orienté vers l'approvisionnement local, les circuits courts, moins de viande et plus de bio. Ce qui suppose notamment l'attribution de parcelles de maraîchage dans la communauté urbaine, l'installation de professionnels, la création de cuisines centrales pour toutes les restaurations collectives et l'aide à la vente de produits locaux aux habitants. La troisième mesure, c'est le projet de technocentre de méthanisation prévu à Saint-Laurent qui peut poser quelques questions. Bon, le point positif de ce technocentre qui sera chargé de fabriquer du méthane, c'est la production évidemment de biogaz à partir notamment des déchets organiques de nos poubelles ménagères. Donc un point positif. Mais les déchets de l'agriculture qui sont prévus également dans ce méthaniseur, doivent-ils aller vers le méthaniseur ou bien doivent-ils servir à l'enrichissement des sols agricoles pour les rendre plus vivants et perméables aux eaux de pluie, comme le réclame la Commission locale de l'eau. Le devenir des digestats du méthaniseur pose aussi question, hein, car ils peuvent nuire à la vie des sols agricoles. On s'interroge de la même façon sur la gouvernance. Financé en grande partie par les deux multinationales Engie et Veolia, l'intérêt général sera-t-il préservé? Nous demandons donc, pour terminer, une rencontre de tous les partenaires. Et nous souhaitons qu'une structure tierce locale soit associée à la gouvernance de ce technocentre.
Oui. Alors, la mesure suivante porte sur la demande d'une politique d'achat public responsable qui inclurait des dispositifs environnementaux, sociaux et locaux dans les appels d'offres pour les marchés publics. Elle a pour but également de relocaliser l'économie. On pourrait utiliser par exemple, entre autres, l'établissement de contrats d'électricité verte ainsi que la création d'une monnaie locale complémentaire. Cette mesure porte aussi sur la demande de financement des projets de la commune ou de la communauté urbaine par des emprunts éthiques, c'est-à-dire auprès d'organismes bancaires qui investissent dans l'environnement ou dans l'économie locale et solidaire, mais qui n'investissent pas, bien entendu, dans les énergies fossiles ou encore dans le nucléaire, et aussi qui ne travaillent pas avec des paradis fiscaux.
L'autre mesure concerne l'eau. Alors tout d'abord, bon, nous appuyons les travaux de la Commission locale de l'eau, hein, qui s'intéresse au ruissellement, érosion des sols, qualité des nappes, des eaux de surface et à la qualité des zones humides. Pour l'eau d'alimentation et d'assainissement, on pense que l'eau doit être déclarée bien commun. Les usagers doivent être associés à sa gestion. C'est possible en gestion publique et pas du tout en gestion déléguée au privé. Quelques autres mesures. Bon, l'eau communale, par exemple, de nettoyage et d'arrosage, hein, peut être récupérée des eaux de pluie. Les produits de nettoyage doivent être des produits naturels. Autre exemple, il est impératif de lutter contre l'artificialisation des sols pour permettre l'infiltration des eaux de pluie, hein, par rapport notamment au ruissellement inondation. Et puis, enfin, on peut accentuer l'assainissement des eaux usées par lagunage et non par station d'épuration, beaucoup plus coûteuse en énergie.
Donc le point suivant, c'est développer les transports en commun en étudiant les possibilités d'une meilleure fréquence et d'un meilleur confort, d'une gratuité pour au moins certains publics et tirer les enseignements des expériences de gratuité totale en cours en Haute-France. notamment à Dunkerque, développer et adapter les infrastructures permettant les transports doux à pied et en vélo et sécurisés. Donc ça, c'est un point assez important parce que pour se déplacer en vélo à Arras, il y a des zones assez dangereuses, donc surtout quand on va du côté de Auchan. Et donc, l'un des exemples qu'on propose, c'est sur le bus, de généraliser les trajets en site propre qui permettent de se déplacer rapidement et surtout d'étendre le service le soir et le week-end. Parce que même si on veut se déplacer à vélo et que les conditions climatiques ne le permettent pas, quand on voit la fréquence des bus, ça rebute. Donc il y a quelque chose à faire sur ça aussi, notamment. Donc le point suivant, c'est sur les déchets. Bah, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc là, c'est sur impulser et financer une véritable démarche de prévention et renforcer la valorisation et le recyclage des déchets en régie ou avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a des choses qui sont très intéressantes en cours sur le territoire. Et donc, en fait, on veut s'assurer que ça va continuer comme ça, notamment sur le compostage avec le budget participatif, donc la mise en place de composteurs publics. Donc le premier composteur a été mis en place au Rillé et on voit qu'il y a un véritable engouement de la population puisque ça a été dimensionné pour 30 foyers et qu'actuellement, il y a 50 foyers qui sont inscrits. Donc... il faut continuer sur cette lancée. Limiter au maximum la place de la publicité, donc de bannir la publicité commerciale dans l'espace public, ainsi que l'allumage des enseignes des commerces après leur fermeture, et donc être plus ambitieux que la réglementation sur ce sujet. Donc le plan local sur la publicité donc, va être traité sur le territoire au niveau de l'automne, mais juste pour avoir un chiffre, sur les panneaux lumineux en 4x3, donc sur une nuit, ça va utiliser 6,9 kWh, ce qui correspond à la consommation d'une famille en 24 heures. Donc c'est assez énorme et on ne parle même pas des terres rares et des métaux qui sont utilisés pour fabriquer ces panneaux. Sachant que l'éclairage public en France et la publicité, ça représente 1 à 2% de la consommation d'électricité en France et donc 4% des émissions de gaz à effet de serre.
La 10e mesure consiste à ouvrir la démocratie locale davantage, à l'ouvrir à tous les habitants, et ceci évidemment au-delà des élections, c'est-à-dire pas seulement au moment des élections. Elle comporte deux volets principaux. Le premier volet consiste à mettre en place des dispositifs de participation citoyenne à la co-construction de projets avec les élus. Par exemple, on peut mettre en place des assemblées locales, des commissions mixtes participatives, des groupes d'action-projet, des pétitions citoyennes, des référendums d'initiative citoyenne, etc. Il faut aussi garantir lors des séances des conseils municipaux un temps de parole pour les habitants. Ce serait aussi utile de former les citoyens aux problématiques des communes. Le but, pour résumer, est de renforcer transparence et communication entre communes ou CUA et habitants. Le deuxième volet consiste à créer une commission extra-CUA, une commission du temps long, pour représenter les intérêts de la nature et des générations futures, et ayant pour but d'examiner la conformité des grands projets intercommunaux avec les enjeux écologiques et sociaux à moyen et à long terme. On peut encore envisager de créer aussi des instances et des tiers-lieux de coopération entre les municipalités et les associations. La mesure suivante, nous demandons à déclarer hors CETA les communes et la communauté urbaine. Un rappel rapidement, une définition, plutôt le CETA, c'est le traité commercial de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le CETA, comme tous les traités commerciaux internationaux actuels, ne prend pas en compte suffisamment l'urgence climatique et les impératifs environnementaux. Le CETA, c'est encore plus d'échanges de marchandises, donc de transports, donc d'émissions de gaz à effet de serre. Le CETA, c'est l'introduction en Europe des schistes bitumineux, énergie fossile la plus polluante et la moins efficace énergétiquement. Le CETA, c'est des mécanismes d'arbitrage privés qui, avec la coopération réglementaire, peuvent empêcher, en amont comme en aval, de prendre des mesures environnementales. En effet, le droit de commerce et d'investissement inscrit dans le CETA prime sur l'urgence climatique. C'est-à-dire qu'une mesure climatique qui ne respecterait pas les règles commerciales consignées dans le CETA pourrait être attaqué par une multinationale et sanctionné de ce fait par un tribunal d'arbitrage avec des sanctions pécuniaires, des amendes. On peut aussi encore signaler que l'accord de Paris n'est pas mentionné dans le CETA. Et d'autre part, que les chapitres sur le développement durable ne disposent d'aucun instrument de contrainte. 11e mesure, favoriser la nature, y compris en ville. C'est-à-dire la développer fortement, d'abord pour tous ses bienfaits qu'elle prodiguerait à de nombreux niveaux. Elle favorise la biodiversité, c'est un puits de carbone. Elle permet l'humidification et la régulation de la température. Elle améliore le bien-être visuel. Elle permet l'absorption des eaux pluviales. Alors, par quels moyens utiliser? Exemple de quelques mesures. Créer des corridors écologiques, c'est-à-dire la continuation et l'approfondissement des trames vertes et bleues. Favoriser l'agroforesterie, la permaculture, les jardins partagés. Établir, bien sûr, un plan de végétalisation des sols en ville, et ceci avec la participation des habitants. On peut encore penser à planter des arbres fruitiers dans les écoles, dans les parcs, etc. etc.
La dernière mesure à laquelle on avait pensé, c'est donc concerne le déploiement prévu de la 5G hein, sur tout le territoire, y compris le nôtre, bien sûr. Alors, la 5G, ce sera donc la pose d'antenne tous les 100 mètres en ville, l'envoi de 20 000 satellites, la multiplication des objets connectés, voitures, objets domestiques, et le remplacement de tous les smartphones. Les conséquences sont d'abord énergétiques, bien sûr, puis avec une consommation accrue d'électricité. Conséquences écologiques, avec l'extraction des métaux rares sur toute la planète, hein, pour tous ces objets connectés. Conséquences sanitaires, des scientifiques ont depuis longtemps lancé l'alarme et réclament un principe de précaution. Plusieurs cantons suisses, ainsi que la ville de Bruxelles notamment, ont réclamé un moratoire concernant l'installation de la 5G. Nous demandons à la CUA de réclamer aussi symboliquement ce moratoire.
Avant de retrouver Jean-Michel Damien pour évoquer avec lui quelques points des différentes mesures, on écoute à présent Xavier Herman nous parler du pacte pour la transition et Thérèse Chiarello qui, elle, revient sur les actions passées et futures menées par le collectif sous la forme de Marche pour le climat.
Ces mesures qui ont été élaborées par notre collectif, elles découlent du pacte pour la transition, donc qui est un outil qui a été donc élaboré au niveau national. C'est un ensemble de propositions apartisanes réalisées donc en collaboration avec une soixantaine d'organisations, mais aussi avec la participation de scientifiques, de citoyens et d'élus. Et toutes partagent un même constat, donc c'est que la transition écologique et solidaire se fera à l'échelle locale et l'échéance électorale de mars 2020 sera une étape décisive pour notre avenir. Donc c'est un travail qui a été réalisé en 18 mois et donc qui a été publié, je crois, en octobre dernier. Donc c'est un argument qui a été renforcé par le GIEC, qui estime qu'aujourd'hui 50 à 70% des leviers d'action contre les changements climatiques se situent à l'échelle locale. Une importance locale renforcée par l'insuffisance des décisions réellement prises jusqu'à présent au niveau mondial, national et aussi local. Alors ce pacte pour la transition a donc pour vocation d'engager les changements nécessaires à la résilience des communes, en réponse aux défis majeurs écologiques, économiques, sociaux et démocratiques du prochain mandat municipal. Alors, ce pacte pour la transition, il est construit selon trois principes transversaux, qui ont été d'ailleurs évoqués au niveau des différentes mesures. C'est la sensibilisation et la formation à la transition, en s'appuyant notamment sur le tissu associatif local, sur les habitants, la co-construction de politiques locales dans la mise en œuvre et le suivi des engagements, toujours avec la population et les associations, et aussi la prise en compte des critères d'impact à long terme et d'urgence climatique et sociale. Donc, ce pacte, c'est 32 mesures que l'on peut donc identifier selon 10 thèmes, donc l'agriculture et l'alimentation, la nature et la biodiversité, l'énergie et le climat, les déchets, le logement, les mobilités, l'argent public, la citoyenneté et la vie publique, et la solidarité. Et on peut y ajouter le numérique également. Donc chaque mesure propose aux candidats, aux élections, 3 niveaux d'engagement, selon ce que les listes donc, aux municipales seront prêtes à faire, à réaliser, et ce qui permettra de situer un peu donc, leur niveau d'ambition. Aujourd'hui, le pacte pour la transition, c'est en France environ 2350 collectifs. Donc il y a une vraie dynamique donc, qui s'est créée. Et donc nous, notre but, ce sera donc, de proposer donc, aux différentes listes municipales ce pacte de 32 mesures, mais également donc, les 12 mesures donc, qui ont été élaborées donc, par notre collectif au niveau d'Arras et de la communauté urbaine. Et donc d'évaluer après donc quel sera donc le niveau, les niveaux d'engagement des listes qui seront présentes donc pour ces élections.
Donc depuis la création du collectif en novembre 2018, nous avons déjà organisé 7 marches, dont 3 avec un thème particulier. Dans l'une d'entre elles, nous avions rebaptisé certaines rues. Dans une autre, nous nous étions attaqués plus particulièrement aux banques. Banque qui, justement, finance des entreprises qui utilisent des énergies fossiles. Dans la dernière, nous nous étions attaqués aux publicités commerciales, notamment puisque la marche était très près du Black Friday et pour attaquer la surconsommation. Et celle que nous prévoyons, donc, c'est la marche du 14 mars, qui est située à la veille des élections, mais qui n'a aucun rapport avec les élections. C'est simplement parce que nous nous associons toujours avec les marches internationales, nationales, voire internationales. Donc voilà. Donc cette marche aura pour thème, évidemment, les mesures dont nous venons de parler. Le thème sera « Penser globalement, agir localement ». Nous munirons de panneaux qui reprendront les mesures évoquées précédemment.
Jean-Michel Damien, donc du collectif Arajoie pour le climat, on vient de parler donc de ce petit fascicule avec 12 mesures qui sont dans le cadre évidemment de la campagne électorale qui arrive. Première question évidemment, et qui soulève quelque chose de très important, le rapport avec les élus, notamment au niveau local et aussi, notamment aussi au niveau de la communauté urbaine d'Arras. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont sensibles? Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés pour parler justement des questions qui sont abordées dans ces 12 mesures?
Bon, alors oui, à l'intérieur du collectif Climat Arajoie, il y a différents groupes et un groupe s'est formé qui s'intitule donc Contact avec les élus et avec les institutions de la communauté urbaine, enfin de l'Arajoie, disons. Donc effectivement, on a des contacts avec les dirigeants de la communauté urbaine et avec certains élus de la communauté urbaine, ainsi que, avec, par exemple, avec des groupements d'agriculteurs.
Alors, on ne va pas tous les citer parce qu'il y en a plein, mais moi, j'ai noté quelques petites choses qui parlent peut-être à tout le monde. Par exemple, dans la première mesure, mener une politique de sobriété, interdire les terrasses chauffées. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui de réalisable, puisqu'on voit que ça a déjà été fait dans d'autres villes, pour Arras notamment?
Ah bah oui, bon, je pense que c'est réalisable, enfin, oui, bien sûr. En plus, bon, je pense que les gens, les habitants sont capables de comprendre, quoi. Il est vraiment aberrant d'utiliser de l'énergie pour chauffer l'extérieur. On n'en est plus là maintenant. Enfin, je pense qu'on peut arrêter ça, il n'y a pas de problème, oui.
En ce qui concerne pour rendre les circuits commerciaux et alimentaires compatibles avec la protection du climat, j'ai souligné aussi arrêter d'enseigner l'utilisation des pesticides dans les lycées agricoles. Alors, comme nous, on en a un pas loin de chez nous, Tilloy-les-Mouflaines, est-ce que vous avez déjà été faire une sorte de campagne de sensibilisation chez eux et comment eux ils se comportent?
Alors non, pas encore. Donc je ne pense pas. Peut-être qu'individuellement des personnes y sont allées, mais au niveau du groupe, on n'y est pas encore allé. C'est quelque chose à laquelle on pense. Parce qu'effectivement, si on veut changer de type de mode de production agricole, il faut commencer par, l'enseignement. L'enseignement, partir du point de départ. Mais on n'y est pas encore allé. Ça fait partie des prévisions, mais bon,
Bon, c'est quand même du boulot, hein, d'essayer de rencontrer un maximum de personnes.
Le technocentre, la méthanisation, notamment à Saint-Laurent-Blangy, là c'est un gros chantier. D'abord, juste rappeler vite fait pour les auditrices et auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que la méthanisation, quel impact ça a justement sur l'environnement et l'humain.
Oui, alors un méthaniseur, bon, il s'agit là d'une production biologique, j'allais dire naturelle. On utilise des micro-organismes pour fabriquer du biogaz à partir des déchets organiques. Alors dans le cadre du technocentre, il y aura trois digesteurs, hein, trois réacteurs. Un qui concernera les boues des stations d'épuration, hein, donc toujours pour fabriquer du biogaz. Un qui concernera les déchets ménagers, hein, qui peuvent être retirés des ordures ménagères, hein, de nos poubelles ménagères, et ça c'est une bonne chose. Et puis un troisième qui concernera les déchets agricoles et les déchets de l'agro-industrie. Alors les problèmes qui se posent, c'est le fait que ces digesteurs, ces méthaniseurs, il faut les alimenter. Une première grosse question, c'est l'alimentation utilisant les déchets agricoles. Alors quand on sait que la commission locale de l'eau demande, dans une de ses propositions, de sa stratégie, à bien analyser le fait que lors de fortes pluies, et il y en aura de plus en plus avec le changement climatique, lors de fortes pluies, les terres agricoles ne sont plus assez perméables pour faire pénétrer l'eau. Hein. Et donc l'une des solutions, enfin la solution, c'est de rendre les terres agricoles plus vivantes, hein, plus poreuse, et pour ce faire, il faut, réinjecter les matières organiques dans le sol, hein, réutiliser les matières organiques de déchets agricoles dans le sol. Alors, si la méthanisation est rentable pour les agriculteurs, est-ce qu'on ne va pas s'orienter vers une mise à disposition de ces déchets organiques dans le méthaniseur plutôt que dans le sol? Voilà. Donc ça, l'une des grosses questions. L'autre grosse question qui peut se poser, c'est les digestats. Hein, parce qu'une fois que la méthanisation est réalisée, hein, il reste un fort pourcentage de déchets, hein, qui n'est pas parti dans la production de biogaz, dont il faut se débarrasser. En général, la meilleure façon de se débarrasser, la plus pratique, c'est de faire des épandages, hein, sur les terres agricoles. Et là, ça peut poser des questions, des problèmes, hein, parce qu'une partie du digestat est toxique pour la vie du sol. Donc ça demanderait analyse, faire les choses d'une manière un peu précautionneuse. Donc voilà. Et ce qui nous intrigue, ce qui nous pose question, c'est également la gouvernance. Hein, parce que la financiarisation de ce technocentre est réalisée en très grosse partie, 70%, par Engie et Veolia. Hein, et donc, voilà, on peut se poser la question de savoir si l'intérêt local, hein, l'intérêt général, hein, va primer sur la rentabilité de l'affaire.
Autre point, se doter d'une politique d'achat public responsable. Là, il est question aussi de créer une monnaie locale et ou un système d'échange local. Alors ça s'est déjà fait dans d'autres villes, là aussi. Est-ce que vous pensez que sur Arras, c'est possible? Et est-ce que les élus ont déjà peut-être éventuellement réfléchi à quelque chose? Ou est-ce que ça doit venir vraiment d'une conviction citoyenne, cette monnaie locale?
Ou alors là, je sais que sur Arras, il y a déjà quelques personnes qui ont réfléchi, qui ont voulu, hein, mettre sur pied cette proposition. Bon, là, je pense que c'est un sujet qui doit être creusé un peu plus, parce que je ne pense pas que ce soit dans l'optique des élus, par exemple, hein, et je pense qu'il faudrait qu'un nombre suffisamment important d'habitants, de citoyens, réfléchissent à la chose.
Et de commerçants aussi.
Et puis les commerçants, mais bien sûr, ça implique forcément, hein, la monnaie locale implique essentiellement les commerçants, bien sûr. Les commerçants et puis les usagers.
On l'évoquait tout à l'heure, Veolia, Engie. Alors, revenir en régie publique de l'eau et de l'assainissement de la CEA, hein, c'est dans le point déclarer l'eau comme bien commun. Ça, c'est un gros chantier qui dure déjà depuis un sacré bout de temps. Où est-ce que ça en est, ça? Est-ce que, justement aussi, les élus, la communauté urbaine d'Arras est sensible de plus en plus?
Non, je ne pense pas. Bon, en tant que représentant d'une association qui s'appelle justement Eau Secours, EAU, donc on connaît assez bien la chose, hein, et on essaye, de faire en sorte que d'obtenir le maximum de documents là-dessus. Tout ce que l'on peut dire, et c'est ce qu'on essaye de dire autour de nous, et surtout aux futurs élus, c'est que les contrats, hein, les deux contrats avec Veolia, avec le délégataire, hein, contrat eau et contrat assainissement, arrivent à échéance en fin 2025. Hein. Ça veut donc dire que la communauté urbaine devra reprendre le dossier de la gestion de l'eau à partir environ de fin 2023. Hein. Donc c'est quand même assez proche. Hein. Et donc les futurs élus auront le dossier de la gestion de l'eau en main. Hein, à partir de dans quelques années, quoi. Donc à eux de, et puis aux citoyens, hein, aux habitants, hein, de les pousser à réfléchir à cette peut-être un retour en gestion publique. C'est pas simple, hein, mais il faut une très forte volonté politique.
Et puis dans le développement des transports en commun que vous mettez aussi en avant dans une de ces mesures, mais ça concerne aussi évidemment la circulation en ville, la piétonnisation. On sait que là, les élus ont fait un petit effort quand même récemment avec la piétonnisation de la place des Héros, donc qui n'était pas piétonne avant. Il était question aussi de piétonniser la Grand Place. Où est-ce que ça en est? Et en ce qui concerne aussi les transports en commun, la gratuité des transports en commun, on a entendu beaucoup parler de ça. Est-ce qu'il y a peut-être un espoir là-dessus justement pour développer ce genre de transport en commun et l'éloignement de la consommation des autos en ville?
C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très complexe. Hein. Il y a l'histoire de la piétonnisation. Bon, effectivement, nous, on pense que le centre-ville, disons, est peut-être piétonnisé, disons, sur une surface un peu plus importante. Concernant les transports en commun, il y a aussi là effectivement une réflexion à avoir. L'une des choses qu'ont soulevé plusieurs personnes, c'est le fait que on pourrait au minimum, enfin au départ, accentuer le nombre de navettes, hein, le nombre de passages. Puisque pour inciter les gens à prendre les transports en commun, s'il y a, disons, une perte de temps assez importante, on n'incitera pas les gens pressés, hein, à prendre les transports en commun. Donc multiplier le nombre de navettes, ça c'est une des choses. Certaines personnes, hein, et surtout des personnes d'un certain âge, insistent aussi sur le fait que, et surtout en hiver, les abribus ne sont pas assez confortables. Et donc certains abribus ne sont pas protégés du vent, par exemple. Hein, donc voilà, c'est aussi une des choses qui pourrait se faire. En ce qui concerne la gratuité des transports en commun, c'est un sujet qui est un petit peu controversé, même chez les écologistes. Hein. Par contre, ce qui peut se faire, c'est la gratuité, disons, quasi totale pour, par exemple, les personnes d'un certain âge ou pour les étudiants. Mais bon, c'est encore un dossier, un bon dossier qui est sur la table. Hein, pour tout le monde.
Et puis ouvrir la démocratie locale, ça c'est aussi important, puisque c'est aussi mêler le citoyen aux décisions. On vous parlait de création de commissions extra-municipales, donc là c'est pareil, c'est vraiment essayer d'associer le citoyen pour que lui aussi ait la parole et donne son avis et que les élus en prennent compte.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est aussi une façon de... Là aussi, c'est assez compliqué, hein, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, on vote, on élit des personnes, des élus qui les représentent, hein, et ils n'ont pas conscience qu'eux-mêmes peuvent, un jour ou l'autre, devenir acteurs, hein, de certaines décisions. Et donc, effectivement, c'est ce que l'on demande. On demande donc une meilleure participation, une meilleure association. C'est pas très simple non plus, hein, mais il faut aussi que ce soit une volonté de la part des élus de faire en sorte que, lorsqu'ils rencontrent les habitants, ce ne soit pas seulement pour leur donner des informations, hein, ou pour recevoir des petites, des petits desiderata, hein, du genre surface de trottoir ou autre chose. Hein, mais donc, la décision doit être, disons, la volonté doit être forte de la part des élus d'associer au maximum les personnes. Il y a des plans, de démocratie locale assez bien détaillés hein, dans le pacte pour la transition, dans les 32 mesures des pactes pour la transition qu'auront les élus en main hein, là-dessus. Mais enfin, c'est un aspect important. Tout à l'heure, on parlait du technocentre. Nous, ce que l'on souhaite pour éviter les dérives, hein, parce que bon, on parlait de l'aspect financier hein, qui est extérieur hein, et qui est entre les mains de multinationales, hein, on disait que ce qu'il faudrait, c'est que, disons, un groupement ou disons un groupement tierce, hein, un groupement extérieur, fasse partie de la gouvernance hein, et que la gouvernance ne soit pas laissée à une petite poignée de personnes. Donc ça aussi, ça fait partie de la participation hein, et de la démocratie locale, par exemple.
Pour rebondir, d'autant plus que certains maintenant font que collectifs de quartier commencent à se créer, notamment celui du RIC, qu'on connaît déjà, qui a déjà gagné quand même pas mal de choses. Le collectif du quartier Miolans est en train de bouger aussi de ce côté-là. Je pense qu'à un moment donné, les élus devront en prendre compte et ils sont déjà, je pense, sur le terrain. Ce petit fascicule avec ces 12 mesures, les élus, évidemment, vont l'avoir entre les mains pour peut-être s'en servir, mais est-ce que vous allez aussi le diffuser d'une manière assez souveraine chez les citoyens, justement, pour aussi les sensibiliser ?
Ah bon, alors là, c'est une question. Hein. C'est une question. La communauté urbaine, c'est quand même, 36 communes, c'est 100 000 habitants. Le fascicule, si on voulait, il est assez gros. Hein. Donc, pour l'instant, ce qui est décidé, c'est que bon, on a un site, hein, Facebook, etc. Les gens peuvent avoir accès à l'ensemble de ces 12 mesures sur le site. Là, on en est là. Hein. Bon, maintenant, effectivement, notre souci, c'est vraiment de faire en sorte qu'un maximum d'habitants hein, de la communauté urbaine aient conscience des choses, ça sache qu'il existe un collectif climat, sache qu'ils peuvent s'y impliquer, qu'ils peuvent y travailler avec nous, qu'ils peuvent donner leur avis, etc. Mais là, voilà, on en est là, c'est aussi une réflexion qu'on doit avoir, hein, et la chose n'est pas résolue, quoi.
Est-ce que le collectif Arajoie pour le climat s'est aussi inspiré au niveau national de villes modèles, de villes pionnières justement qui ont réussi une transition écologique assez magistrale? Bon, je pense un peu à la ville de Los Angeles qui est peut-être un peu l'exemple quand même type d'une ville qui a quand même écologiquement parlant très bien évolué.
Oui, bien sûr qu'on peut regarder ce qui se passe à l'extérieur. Bon, on n'est pas véritablement partie des dossiers hein, qui concernent les villes dont vous parlez. Bon, mais par contre, bon, par exemple, une des choses qui est intéressante sur Los Angeles et qui est citée comme exemple dans l'une des mesures concernant l'énergie, hein, c'est le fait que les énergies renouvelables peuvent être prises en main par des collectifs locaux, par des groupements d'habitat. On peut créer des coopératives, par exemple, de production d'énergie plutôt que de laisser les énergies renouvelables entre les mains des grands groupes. Hein. Donc, voilà un exemple. Hein, que l'on peut citer, mais bon, véritablement, on n'a pas étudié le dossier des villes, disons, exemplaires, quoi.
Reportage réalisé lors de la conférence de presse que des militantes et militants du collectif Arajoie pour le climat ont donné à la Maison des sociétés d'Arras.